Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Le nouvel an berbère célébré hier en Afrique du Nord, notamment en Algérie, nous écouterons les vœux en langue française et en langue amazigh de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi. Le 1er octobre, l'allocation aux adultes handicapés sera calculée de façon individuelle et non plus en fonction des revenus du conjoint. Entretien avec le coordinateur du collectif handicap, Stéphane Lenoir. Enfin, nous écouterons la dramaturge Cyrine Ashkar. Sa pièce intitulée « Inadaptée à la comédie nation » évoque la question de la prison. La célébration hier du nouvel an berbère, Yenayer 2973, un événement important pour l'ensemble des populations berbères de l'Afrique du Nord et du Sahel, les vœux en langue française et en langue amazigh de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi.
À l'occasion du nouvel an 2023 et de Yenayer 2973, je suis particulièrement heureux d'adresser à l'ensemble des membres de notre communauté établi en France, ainsi qu'à nos amis français, mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité. Puisse cette année voir l'Algérie nouvelle réaliser avec la contribution de tous ses enfants davantage de progrès et de succès. Comme je souhaite le meilleur pour les relations algéro-françaises. Bonne année à tous. يربح بالخير يلي يوف يلي يوين ذيقوا يبغذود الجزائر مرة 1973 دوين هيجي أثنرني الجزائر ثاش ذيب أفوز دكفوز تذوك لي أسير.
L'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi. En Tunisie, 9 femmes poursuivies pour terrorisme ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 25 ans de prison. Elles étaient accusées d'avoir planifié un attentat contre un ministre. Le premier ministre irakien en Allemagne, au centre de la visite de Mohamed Chia el-Soudani, la question de l'électricité. L'Irak produit du pétrole, mais souffre de graves pénuries d'électricité. Tout rapprochement avec Ankara doit aboutir à la fin de l'occupation turque en Syrie, déclaration de Bachar al-Assad alors que se tiennent des réunions entre les deux pays, réunions parrainées par la Russie. En France, l'allocation aux adultes handicapés sera calculée de façon individuelle, c'est-à-dire sans tenir compte des revenus du conjoint à partir du 1er octobre prochain. Pour les personnes déjà dans le dispositif, le changement de mode de calcul s'effectuera uniquement s'il les avantage. Sur cette mesure, entretien avec le coordinateur du collectif handicap, Stéphane Lenoir.
Le principe de la déconjugalisation de l'AAH est une ancienne demande du secteur associatif. Et donc, nous, on se félicite que enfin ce principe soit tacté dans la loi et donc là, par voie réglementaire. Pour nous, on considère que c'est une victoire. Hein. Alors après, effectivement, il y a un bémol, c'est cette date d'application qui est au 1er octobre 2023. Nous, on considère que c'est tardif, mais néanmoins, ce sera actif d'ici quelques mois et on ne peut que s'en féliciter.
Cette mesure qui entrera en vigueur donc le 1er octobre prochain, ses effets seront différents pour les personnes nouvellement bénéficiaires de l'AAH.
Ce qui va se passer, c'est que, pour le dire simplement, c'est l'administration qui va calculer pour les bénéficiaires actuels quel est le régime le plus avantageux pour eux. C'est-à-dire que si la déconjugalisation est favorable ou pas pour les bénéficiaires actuels. Donc l'administration va le faire, ça va se faire de manière automatique, ce qui pose d'ailleurs la question de l'information pour ces bénéficiaires de l'AAH. Ensuite, il y a un deuxième scénario possible, enfin une deuxième situation possible, c'est les personnes qui auraient demandé l'AAH qui leur aurait été accepté par la MDPH, par notification, mais refusé par la CAF parce qu'elles atteignaient, elles dépassaient les plafonds. Et donc ces personnes qui auraient reçu un refus de la CAF, elles doivent pouvoir être informées pour savoir si à présent elles peuvent bénéficier de cette mesure de déconjugalisation de l'AAH. En gros, si elles peuvent, à partir du 1er octobre 2023, bénéficier de l'AAH ou pas. Donc voilà, donc il y a deux situations. La première, c'est celle où les personnes vont se voir calculer automatiquement par l'administration, par les services de la CAF, si la déconjugalisation leur est favorable ou pas. Voilà, donc là, les personnes n'ont rien à faire. Et la deuxième situation, c'est celle où la personne aurait eu un refus de la CAF et qui, après le 1er octobre 2023, pourrait bénéficier de l'AAH.
Vous demandez une revalorisation de l'AAH pour que cette allocation atteigne au moins le niveau du seuil de pauvreté.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le principe de la déconjugalisation de l'AAH ne réduit pas la question, en tout cas ne se réduit pas à la question des revenus et des ressources des personnes en situation de handicap qui sont une population pauvre en grande partie. Et donc nous, la demande du collectif, mais aussi la demande des associations, c'est que l'AAH puisse atteindre à minima ce niveau de pauvreté qui est effectivement à hauteur de 60% du niveau médian. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y en a, selon les chiffres, entre 19 et 25% des personnes en situation de handicap qui sont considérées comme pauvres. Donc c'est quand même une grande partie de la population handicapée. Et donc encore une fois, c'est la raison pour laquelle on demande à ce que l'AAH soit relevée au niveau du seuil de pauvreté à minima.
Et vous demandez une réforme en profondeur de l'allocation adulte handicapé.
On demande effectivement, puis là on est en plein travaux pour préparer la conférence nationale du handicap, on demande à ce que la question des ressources soit véritablement posée pour lutter contre la pauvreté des personnes en situation de handicap. Donc ça passe à la fois par une réflexion sur l'AAH, mais aussi sur les pensions d'invalidité, et puis sur l'ensemble des allocations allouées aux personnes en situation de handicap et à la manière d'atteindre un niveau de vie décent pour l'ensemble de la population handicapée en France.
Vous évoquiez cette conférence nationale du handicap qui aura lieu cette année. Quels sont les grands enjeux de cette conférence ?
Effectivement, la conférence nationale du handicap aura lieu en 2023, normalement au printemps, la date n'est pas encore déterminée. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de fixer le cap du quinquennat. Le président, le candidat Macron n'a pas dans son programme véritablement défini de grandes lignes, une grande orientation politique concernant le handicap. Donc pour nous, cette conférence nationale du handicap doit fixer le cap pour le reste du quinquennat. Et donc les enjeux sont nombreux et importants. On peut citer la question de l'autonomie, on peut citer la question de l'accessibilité, la question des ressources, qui pour l'instant ne fait pas partie des travaux préparatoires à cette CNH, la question des transports, la question de la vie quotidienne des personnes. Donc c'est pour ça que pour nous c'est un véritable enjeu.
Et vous évoquiez l'accessibilité qui est un élément central. Comment est-ce que cela a évolué ces dernières années ?
Très lentement, malheureusement. L'accessibilité, c'est effectivement le premier critère pour une participation citoyenne. C'est la possibilité de se déplacer, c'est la possibilité de travailler, c'est la possibilité d'avoir globalement une vie citoyenne. Or, aujourd'hui, on sait que la France n'est pas complètement accessible, et il y a même des endroits où elle ne l'est absolument pas. Donc c'est un état de fait de discrimination. Quand vous avez des personnes qui ne peuvent pas tout simplement aller dans une boulangerie, aujourd'hui c'est complètement inacceptable. Ou quand vous avez des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elle n'est pas accessible, c'est complètement inacceptable. Donc on a un retard qui s'accumule d'année en année. Je rappelle que normalement en 2015, la France devait être totalement accessible. On est loin du compte. Donc il a été prévu après 2015, en fait, un calendrier pour permettre à nouveau une mise en accessibilité de la France. Et ce calendrier, pour un grand nombre de bâtiments, n'a toujours pas été respecté. Donc c'est pour ça que malheureusement ça avance très lentement et ce sera une demande très forte du collectif dans le cadre de ces travaux préparatoires à la CNH, c'est qu'enfin on puisse mettre les moyens et un calendrier qui soit tenu pour rendre la France accessible.
Le coordinateur du collectif Handicap, Stéphane Lenoir, au micro de François-Xavier Decalonne. Enfin, la dramaturge et metteur en scène Cyrine Achkar présente sa nouvelle pièce à la Comédie Nation à Paris. Intitulée « Inadapté », cette pièce raconte le quotidien de prisonniers qui participent à un atelier de théâtre, un texte inspiré de l'expérience de Cyrine Achkar.
Ce texte est né suite à l'animation d'un atelier théâtre que j'ai animé en décembre 2017 dans une prison française à Château-Thierry. C'était une prison où il y avait des détenus de longue peine et des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Donc il y avait un peu les deux. Il m'a été demandé d'animer un atelier théâtre pour Noël, pour les détenus. Et en fait, j'ai été confrontée vraiment à, bon, si on peut le dire comme ça, à de la misère humaine, à beaucoup de souffrance, à beaucoup de solitude, à énormément de frustration. Et ça m'a touchée puisque je ne suis pas armée spécialement. Je suis prof de théâtre et auteur, mais je ne suis pas psychologue. Du coup, ça m'a vraiment touchée, tout ce que j'ai pu voir. Et surtout la parole qui s'est libérée petit à petit pendant l'atelier qui a duré 2 semaines. Et donc c'est à partir de là où j'ai eu vraiment un besoin de re-raconter cette expérience en fait et surtout les histoires, les récits que j'ai entendus pendant l'atelier. Donc c'était vraiment pas prévu du tout que je parle de l'univers carcéral. Dans mes pièces précédentes, je parlais des droits de la femme, de l'exil... des sujets qui étaient plus familiers pour moi, qui partaient aussi un peu de mon vécu. Et là, ça m'est tombé dessus. C'est vraiment un sujet qui s'est imposé à moi suite à cette expérience. À partir de là, j'ai recueilli des paroles, des propos, des punchlines drôles aussi. Et après, j'ai recruté des comédiens professionnels qui étaient compatibles avec les personnages que j'ai rencontrés. Et on a fait un travail de création, d'écriture de plateau. On a réécrit le texte ensemble et on a créé une partition à partir de ça, de cette réalité-là, en fait, de ces paroles recueillies.
Alors, vous montrez sur scène des détenus dans 2 situations, dans leur quotidien de prisonnier, si j'ai bien compris, surtout le soir. Mais il y a aussi ce moment hors du temps où ils participent à cet atelier théâtral. Ce type d'expérience, pour eux, c'est un moment de liberté.
Exactement. En fait, je mets en scène vraiment les 4 journées de l'atelier. La temporalité, elle est très claire, les 4 journées de l'atelier plus le spectacle. Et donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je mets en scène la réalité de ce qui s'est passé. Et donc, il y a l'espace de la parole de l'atelier, où ils sont ensemble, où il y a une parole qui se libère, où ils se racontent petit à petit. Et ils lâchent beaucoup de rêves, de manques, de frustrations, d'histoires personnelles. Et puis, il y a l'espace de la nuit, où ils sont tout seuls dans leur cellule. Bon, ça, moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai imaginé. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que je voyais les détenus tous les jours, tout au long de l'atelier. Et donc, les matins, chaque matin était différent. Il y a des matins où je les trouvais très enthousiastes, et le lendemain, ils étaient complètement cassés, comme si la nuit qui est passée a laissé des traces ou les a vraiment un peu démolis, en fait. Donc, je me dis, cet espace de la nuit, il doit se passer des choses. À ce moment de solitude, qu'ils doivent, quand ils re-rentrent dans leur cellule, il doit se passer des choses entre eux et eux-mêmes, avec leur mémoire, avec tout le manque qu'ils sont en train de vivre. Et donc, en fait, dans la pièce, je mets en scène et les journées d'atelier et les nuits où ils sont face à eux-mêmes.
Et c'est une pièce qui pose beaucoup de questions sur la prison, notamment le fait que de nombreuses personnes incarcérées souffrent de troubles psychiatriques.
Oui. En fait, ce que j'ai réalisé, moi je ne connaissais pas cette réalité, c'est qu'il y avait vraiment des gens qui étaient mis ensemble, qui n'avaient rien à faire ensemble, c'est-à-dire il y avait des personnes qui souffraient de troubles psychiatriques. Et on m'a expliqué qu'ils étaient là parce qu'ils étaient dangereux, parce qu'en fait ils étaient manipulables. Mais en fait, pour moi, ils avaient besoin d'être soignés. Et de l'autre côté, il y avait des délinquants, on va dire lambda, c'est-à-dire des dealers, des braqueurs, qui n'ont aucun problème si. Et donc, c'était un peu bizarre, c'était un peu étrange, ce mélange-là. Je pouvais, par exemple, passer dans un couloir. C'est des choses qui m'ont énormément marqué. Et j'entends, par exemple, un détenu qui est enfermé, qui sort jamais, qui crie tout le temps, parce qu'il ne va pas bien, en fait. Ou quelqu'un qui est complètement dans son monde, complètement déconnecté. Il y avait un détenu qui a fait l'atelier, était complètement déconnecté de la réalité. Pour moi, il était autiste, sincèrement. Et à côté, il y avait un dealer avec toutes ses facultés mentales, un braqueur. C'est ce mélange-là qui m'a amené à poser la question de est-ce que l'enfermement sert vraiment à quelque chose ? La question, elle est un peu radicale, mais est-ce que c'est ça la solution ? Et est-ce qu'on peut mettre tout le monde dans le même panier ?
Que nous raconte votre pièce aussi sur ce que subissent les corps et les âmes de ces prisonniers ?
Justement, moi, je voulais parler de la déshumanisation des corps. C'est-à-dire pour moi, surtout sur certains détenus, ceux qui étaient là depuis 20 ans, depuis 25 ans, le corps, pour moi, il est complètement déshumanisé. Il y avait un détenu, par exemple, pour donner l'exemple, il avait des habits complètement déchirés, sales, il sentait mauvais. Il avait les chaussures déchirées, le ventre qui sortait de son pantalon. Et donc, c'est des personnes qui sont laissées c'est des corps qui sont laissés à l'abandon, des corps qui n'ont pas été touchés depuis des années, des corps qui sont réduits à l'état animal parce qu'on leur donne juste à boire, à manger, et puis ils n'ont droit à rien d'autre en fait. Tout ce qui nourrit l'esprit, l'âme, ils sont privés de ça. Et donc la question, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait sortir une meilleure personne de là en étant une meilleure personne si on nous réduit, les corps sont maltraités, les corps sont frustrés. Et il y a vraiment une question de cloisonnement, en fait. C'est-à-dire, on coupe l'espace, le théâtre a ouvert l'imaginaire, justement, a ouvert une porte. Mais la vérité, c'est qu'ils sont privés même d'imaginer, parce qu'ils ne lisent pas, parce que leur esprit n'est plus stimulé, parce qu'ils ne sont pas formés. Bon, là, il y a eu ces ateliers culturels qui étaient une très bonne idée, une très bonne initiative. Et c'était vraiment comme une belle échappatoire, une belle porte de sortie pour leur imaginaire. Ça leur a permis d'être très nécessaire pour ces personnes-là. Mais sinon, les corps sont laissés à l'abandon, j'ai envie de dire. Et les esprits aussi, en fait. Alors, on joue du vendredi 13 janvier jusqu'au vendredi 3 février. Tous les vendredis à 19h, à la Comédie Nation, 77 rue de Montreuil, dans le 11e.
La dramaturge et metteur en scène Cyrine Achkar, elle présente sa nouvelle pièce inadaptée à la Comédie Nation à Paris. Cette édition est terminée. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93, conseiller régional d'Île-de-France apparenté à LFI. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.